accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. L'Estonie se rêve en paradis des start-up et des migrants ultra qualifiés. Le pays nourrit en effet l'ambition de devenir une Silicon Valley européenne. Le gouvernement a créé un environnement économique très favorable pour les entreprises du secteur. Une stratégie qui, espère le pays aux 1 300 000 habitants, permettra aussi de résoudre un problème aigu de main-d'œuvre sur fond de baisse de la natalité. C'est un reportage de Cécile Debarge.
Au détour des allées de la banlieue pavillonnaire de Tallinn, la capitale estonienne, se cache l'une des entreprises les plus prometteuses du pays, Chemi Pharma. Née en 1997 dans le garage d'une maison anonyme, c'est aujourd'hui le leader du marché des produits désinfectants dans les États baltes. Dans le laboratoire attenant au bureau, Christo Timberg détaille le processus de transformation des matières premières en produits d'entretien.
Parfois ça prend 2 heures, parfois 2 jours. Quand les produits sont prêts, ils sont testés en laboratoire. On vérifie notamment leur pH, leur taux d'acidité. Et si c'est bon, ils sont mis dans les tubes et passent à la ligne de remplissage pour les conditionner.
Forte de son succès, l'entreprise s'est développée dans le secteur des cosmétiques et est devenue numéro 1 du pays. Elle a aussi misé sur l'export qui représente 70% de ses revenus avec un marché qui s'étend de l'ex-URSS au Pakistan, au Sri Lanka ou encore à la Sierra Leone. Une stratégie payante et fortement soutenue par le gouvernement estonien.
Ils nous ont aidés à acheter des machines, à développer différents produits et ça couvre jusqu'à 30, 40 voire 50% de nos dépenses. Le gouvernement estonien et l'Union européenne ont clairement intérêt à ce que les entreprises se développent.
Sur les murs de la salle de réunion, 2 petites affichettes surmontées d'un drapeau estonien et européen attestent de la participation de Chemi Pharma à plusieurs projets de développement d'entreprises cofinancés par le gouvernement et l'Union européenne.
On va intégrer un nouveau programme d'aide cette année ou l'année prochaine. Les nouvelles technologies permettront de développer un seul et même système pour gérer les stocks, la fabrication, etc.
Chemi Pharma est un bon exemple du modèle d'entreprise sur lequel mise le pays. De petites structures flexibles qui produisent des produits à haute ou très haute valeur ajoutée. Une stratégie que défend le Premier ministre du pays, Tavi Roivas.
On essaie de rendre le climat le plus favorable possible pour les investissements et le business, notamment en allégeant au maximum le système de taxes. C'est-à-dire que tous les profits qui sont réinvestis ne sont pas taxés et que les impôts sur les revenus des sociétés ne dépassent jamais 20%.
Et pour retenir les entreprises dans le pays, l'Estonie pense à tout.
La deuxième chose, c'est qu'on épargne aux gens les tracasseries administratives et la bureaucratie. Ça veut dire que toutes les démarches que vous devez accomplir au niveau national ou local, vous les faites par Internet.
Online.ee is more than just an email address. You can add all of your existing email accounts to online.ee.
À quelques kilomètres de la capitale, le gouvernement a développé un showroom entièrement dédié aux nouvelles technologies dont l'Estonie a fait sa vitrine. L'endroit est tapissé d'écrans plasma et de tablettes numériques. Des services de santé aux services administratifs, chaque écran présente l'une des 1000 applications de la stratégie numérique estonienne que défend Indrek Palo, le directeur de l'agence pour les investissements.
Évidemment, chaque pays dans le monde est réputé pour un domaine donné. On aimerait que l'Estonie soit citée comme exemple de pays innovant et où il fait bon faire du business.
Si le projet est séduisant et permet de dynamiser le marché du travail, il ne suffit pourtant pas à pallier la baisse de la population active. Les prévisions pour 2040 indique que le modèle social sera presque impossible à maintenir si rien ne change. Les travailleurs sont plus nombreux à quitter le pays qu'à y venir et la démographie actuelle n'assure pas le renouvellement des générations. Le pays a donc ciblé une immigration bien particulière, explique Indrek Palo.
On a récemment lancé un programme qui s'appelle Travailler en Estonie. Il explique tout ce que doit faire un étranger qui veut venir travailler et vivre en Estonie. On détaille aussi tous les postes vacants dans les entreprises. La croissance dans le secteur des nouvelles technologies est telle qu'on a un sérieux manque d'ingénieurs. C'est pour ça qu'on essaie d'attirer ici les meilleurs talents des nouvelles technologies.
Pourtant, le pays reste encore réticent, aussi bien dans l'opinion publique que dans sa classe dirigeante, à accueillir accueillir une large part de main-d'œuvre étrangère moins qualifiée.
La crise actuelle des réfugiés en Europe n'est pas une réponse à nos problèmes. Les entreprises recherchent vraiment des profils spécifiques et ont souvent de grandes difficultés à recruter des ingénieurs en nouvelles technologies ou des ingénieurs mécaniques.
D'ici 2040, la population active pourrait chuter à 499 000 personnes contre 614 000 aujourd'hui, soit moins de la moitié de la population totale.
Non, ceci n'est pas un cintre.
Quand l'IVG n'était pas légale, le cintre était l'instrument pour avorter. Cet objet du quotidien est le symbole des avortements illégaux.
Chaque année, 47 000 femmes meurent des suites d'un avortement illégal.
Une femme meurt toutes
le droit à l'avortement reste dans fragile dans le monde entier. La mobilisation citoyenne en Pologne vient de le rappeler. Quelques jours après de grandes manifestations qui ont rassemblé 500 000 personnes dans tout le pays, le Parlement vient de rejeter la proposition de loi interdisant totalement l'avortement. Une victoire pour les femmes en Pologne, mais ailleurs, ce droit reste menacé. D'où cette campagne internationale en faveur de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, lancée par le planning familial français. Avec ce slogan donc, ceci n'est pas un cintre. Depuis quelques semaines, les photos de femmes, mais aussi d'hommes, posant avec un cintre se multiplient sur les réseaux sociaux. Le reportage de Laurence Théo.
Le choix du cintre ne doit rien au hasard. Avant la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse par la loi Veil, il y a 41 ans, certaines femmes utilisaient des cintres et des aiguilles à tricoter pour avorter clandestinement. Véronica Nozeda, coordinatrice nationale du planning familial.
C'était une façon à la fois de rappeler un passé qui n'est pas si loin que ça, où des femmes étaient obligées d'avorter clandestinement, de faire le lien avec une réalité internationale qui est loin d'être rose, parce qu'il y a énormément de pays, malheureusement, où l'avortement est toujours interdit, et donc ce cintre signifie quelque chose de très actuel.
Seuls 61 États autorisent l'IVG sans restriction. Autrement dit, seulement 39,5% des femmes dans le monde ont pleinement accès à ce droit.
L'avortement dans la plupart des pays d'Afrique et d'Amérique latine est toujours illégal, sauf dans des cas, on va dire, d'avortement thérapeutique. Donc il reste énormément de progrès à faire. Il y a malheureusement 5 millions d'avortements chaque année qui sont suivis par des complications et malheureusement 45 000 décès chaque année.
Cette réalité, Fabienne, 21 ans, la connaît. Elle a fait le choix d'avorter.
Moi, je viens du Cameroun et je sais que c'est interdit. Faut le faire vraiment d'une manière secrète, prendre des pilules au marché noir, enfin, ou voir une dame qui a de l'expérience entre guillemets dans le domaine, qui va vous trifouiller le truc pour que vous fassiez une fausse couche. Voilà quoi. Je pense déjà qu'on a de la chance parce qu'on est en Occident et que les gens ont pu accepter dans les mœurs que voilà qu'on n'ait pas envie d'avoir un bébé.
Même en Europe, l'IVG est un droit sans cesse remis en cause. L'Espagne a bien fait y reculer. L'Irlande du Nord fait depuis longtemps de l'obstruction. Et en ce moment, la Pologne se durcit. En France, l'IVG est légale jusqu'à la 14e semaine de grossesse et plus de 200 000 avortements y ont été pratiqués en 2015. Alors, s'il y a eu de grandes avancées et si la démarche peut sembler courante, les femmes qui ont recours à l'avortement doivent parfois surmonter bien des obstacles pour que leur choix soit respecté. Cheveux longs, noirs et lisses, visage très fin, Angoun souhaite interrompre sa grossesse.
Vous êtes un peu livrée à vous-même, donc c'est vous qui appelez les hôpitaux, qui essayez de trouver un rendez-vous pour une échographie, pour une prise de sang. Vous êtes engluée dans les carcans administratifs divers et variés, et c'est toujours pas facile. Chaque hôpital a ses propres plannings, par exemple ils font les IVG que tel jour de la semaine. Là, pendant ce temps, votre grossesse avance. Après, à la fin, vous dites est-ce que je vais pouvoir y arriver ? C'est même pas est-ce que je veux avorter ou pas, c'est même est-ce que si je voulais, je pourrais avorter.
Mais ce carcan administratif n'est pas le seul frein à l'IVG. Aujourd'hui encore, l'avortement reste un acte médical qui dérange. Caroline Rébi, du Bureau national du planning familial.
Il y a tous les propos jugeants des professionnels autour de l'échographie, par exemple, qui disent on entend un cœur qui bat, vous devriez mieux le garder. Vous n'êtes pas assez protégé. Vous auriez dû prendre mieux votre contraception.
L'objectif de la campagne Ceci n'est pas un cintre est également de lutter contre ces sites pro-vie qui avancent masqués pour véhiculer des informations fausses sur l'IVG. Nawak est illustrateur, il fait partie des nombreuses personnalités à soutenir l'action du planning familial. Il dénonce leur prolifération sur Internet.
On s'aperçoit que ces sites utilisent une iconographie, utilisent des discours, des témoignages. Sont-ils vrais, sont-ils faux ? Enfin, ça, malheureusement, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ils sont tous orientés de manière à faire culpabiliser, à faire douter, à faire peur. Et on sent vraiment qu'on s'adresse à l'émotion, qu'on a un chantage psychologique envers la personne. Alors que lorsqu'on va sur un site vraiment qui a une information claire, qui a une information objective, on ne cherche pas à orienter le choix de la personne. Non, au contraire, on lui donne l'information objective, fiable, de manière à ce qu'elle puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Le Sénat a toutefois rejeté un amendement au projet de loi qui devait permettre d'élargir le délit d'entrave à l'IVG à ces désinformateurs en ligne.
« 250 000 rennes vont très probablement être abattues en Sibérie. Cela se passe dans la péninsule de Yamal, à l'extrême nord de la Sibérie occidentale, au bord de l'océan Arctique. Et la faute en revient au réchauffement climatique. La fonte du sol gelé libère les bactéries jusqu'à emprisonner, congelées en quelque sorte. » C'est ainsi que l'anthrax a fait sa réapparition et qu'un enfant de 12 ans est mort de la maladie du charbon en août dernier. Jean-Didier Revoin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI dans la région. Quel est l'objectif des autorités en procédant à cet abattage massif?
Eh bien, pour le gouverneur de la région, Dmitri Kolbikin, il s'agit d'une mesure de précaution qui doit éviter que l'anthrax, qui avait disparu de la région depuis 1941, ne se propage davantage. Les autorités redoutent plus que tout la propagation de cette maladie du charbon. Au mois d'août, près de 72 personnes ont présenté les symptômes et ont été hospitalisées. On sait aujourd'hui que c'est après avoir mangé de la viande d'un renne contaminé qu'un enfant est décédé au mois d'août. Par ailleurs, à la fin de l'été, près de 2500 rennes seraient morts de l'anthrax. Alors les scientifiques attribuent la résurgence de cette maladie qui avait disparu depuis 75 ans au réchauffement climatique. Leur hypothèse, c'est que le cadavre d'un des animaux morts à cette époque a été conservé durant toutes ces années dans le pergélisol, ce sol qui reste gelé toute l'année en profondeur, et que compte tenu des températures anormalement élevées de cet été, supérieures de plus de 5 degrés aux normes saisonnières, eh bien, le dégel du sol en profondeur a réveillé la bactérie qui, d'après les scientifiques, peut survivre plus de 100 ans dans un sol gelé.
Alors Jean-Didier, quelles seront les répercussions pour les populations locales qui vivent principalement de l'élevage de rennes?
Et oui, ben, pour l'anthropologue Olga Mourochenko, elle n'hésite pas à parler d'un coup dur à l'égard des tribus qui élèvent ces animaux. Elle estime qu'un grand nombre de nomades vont perdre leurs moyens d'existence, comme les possibilités de maintenir leur mode de vie traditionnel. Les petits éleveurs qui possèdent une centaine de rennes risquent d'en souffrir le plus, même s'ils peuvent profiter d'un programme gouvernemental qui offre des conditions de crédit favorables aux nomades qui décident d'abandonner leur mode de vie ancestral pour acheter un appartement.
Alors, on l'a dit, c'est le réchauffement climatique qui est à l'origine du problème. Est-ce qu'il pourrait entraîner d'autres types de risques?
Eh bien, compte tenu de cette hausse des températures, les sols traditionnellement gelés toute l'année libèrent des bactéries que les systèmes des êtres vivants n'ont pas ou alors plus l'habitude de combattre, comme c'est le cas, par exemple, du virus géant qui s'appelle Molivirus sibericum. Le risque de voir ressurgir des maladies datant du 19e ou du 20e siècle est donc présent, mais d'un autre côté, ce dégel des sols libère des poches de gaz dont le sous-sol de la péninsule de Yamal regorge. Des cratères mesurant plusieurs dizaines de mètres de diamètre apparaissent soudain, ou alors certaines portions de terre herbeuse tiennent plus du waterbed que de la terre ferme. Du coup, quelques experts se demandent si cette campagne d'abattage, qui touche quand même un quart de million de rennes, a lieu pour des raisons sanitaires ou simplement pour faciliter la tâche des compagnies gazières, car depuis quelques mois, les licences pour l'extraction des gaz dans cette région n'ont jamais été délivrées aussi rapidement.
Jean-Didier Revoin dans Accent d'Europe.
Novi predsjednik UEFA je Slovenac, Aleksandar Čeferin, dugogodišnji predsjednik Slovenskog nogometnog saveza.
Le 14 septembre dernier, le Slovène Aleksandar Čeferin était élu haut la main à la présidence de l'UEFA. Une première pour un candidat venu d'un pays de l'Est, la consécration pour ce juriste qui se présente comme l'homme du renouveau du football européen, plus égalitaire et moins corrompu, même si certains nourrissent quelques doutes sur cette dernière affirmation. Portrait signé Simon Rico.
Quand Aleksandar Čeferin s'est lancé dans la course à la succession de Michel Platini le 8 juin, personne ou presque ne croyait en ses chances de victoire. À 48 ans, ce dynamique avocat en droit criminel et commercial n'était que le président de la petite fédération de Slovénie, un pays d'à peine 2 millions d'habitants, indépendant depuis 1991. Face à lui, le néerlandais Michael van Praag faisait figure de grandissime favori. Et pourtant, Aleksandar Čeferin a su patiemment construire sa victoire en séduisant d'abord les petites nations du football européen avant de rallier une à une les plus puissantes. En effet, le nouveau patron de l'UEFA a toujours clamé son souci de rééquilibrer le rapport de force entre les 55 fédérations, tout en mettant l'accent sur la sécurité et l'intégrité, une priorité après l'exclusion pour fraude de son prédécesseur. Amateur de basket et de karaté, brillant homme d'affaires, Alexander Čeferin assure vouloir œuvrer pour plus d'égalité entre les gros et les petits clubs, entre les hommes et les femmes et entre les riches et les pauvres. À peine élu, il a ainsi publiquement dénoncé la future réforme de la Ligue des Champions qui prévoit de renforcer à partir de 2018 le poids des grands championnats et prévenu qu'il allait tout faire pour la bloquer. Mais le quadragénaire au physique de gendre idéal traîne quelques casseroles. Selon l'enquête du journal norvégien Yosimar, Gianni Infantino, le président de la FIFA, lui aurait acheté les voix de certaines fédérations en échange de l'attribution de compétitions ou de postes à responsabilité. Pour les spécialistes du monde du football, Alexander Čeferin apparaît donc comme un président faible, soumis aux diktats de la FIFA. À ceux qui critiquent son manque d'indépendance, le Slovène répond qu'il n'est la marionnette de personne, à part peut-être celle de ses enfants.
Une exposition qui a du coffre dans l'est de la France. En Alsace, la ville d'Haguenau vient d'inaugurer son musée du bagage, une collection unique en Europe qui fait la part belle aux voyageurs d'autrefois. Visite guidée avec Corinne Fugler.
Ce musée du bagage est installé dans une ancienne agence de la Banque de France, un bâtiment du 19e siècle dont les guichets rappellent les gares d'antan. Il abrite la collection d'un couple de Haguenauviens passionnés par les valises, Marie et Jean-Philippe Roland. Ces malles ont appartenu à des voyageurs célèbres comme Braza, qui a exploré l'Afrique au 19e, Mathilde Imbert, la responsable du musée.
Braza, effectivement, a commandé deux malles lits pour lui et son épouse pour pouvoir sillonner l'Afrique. Et Cyril de Russie avait commandé une malle à la maison Vuitton, donc pour lui et une seconde pour son épouse, qui finalement leur servirent à fuir la Russie qui commençait à connaître les affrontements de l'époque bolchevique. Et ces malles leur ont permis de sillonner toute l'Europe, toutes les capitales européennes pour trouver un refuge et pouvoir s'installer.
Il fallait en effet une certaine ingéniosité pour offrir du confort à ces nomades.
C'est un peu le camping de luxe, puisque ce qui est incroyable dans cette malle Braza, c'est que tous les éléments se replient et se rangent dans un petit coffret. Donc le matelas, le sommier, le pied et la tête de lit. Et donc c'est véritablement des objets qui présentent une ingéniosité à la fois très pratique mais aussi très luxueuse pour l'époque.
À Haguenau également, la malle bureau de Sir Arthur Conan Doyle et les bagages que la cantatrice Lily Pons emportait avec elle en tournée.
La malle Lily Pons, c'est une grande malle qui doit faire environ 1,20 m sur 80 cm de large. Et lorsqu'on ouvre sa porte ventrale, puisqu'elle s'ouvre à la fois sur le devant mais aussi sur le dessus, on a un ensemble assez impressionnant de petits tiroirs qui devaient contenir toutes les chaussures de Madame Lily Pons. Vous avez un immeuble en quelque sorte de tiroirs qui devaient contenir des chaussures.
Autre pièce hors du commun, ce panier conçu pour déguster le thé, découvert par Jean-Philippe Roland.
C'est une malle qui est très originale puisqu'en fait c'est une petite malle nécessaire à thé pour couple pour le train. Donc il y a une petite sangle en cuir qu'on passe dans la vitre du train, on ferme la vitre, monsieur s'assoit d'un côté, madame de l'autre, et on a le réchaud à thé, la théière, les boîtes pour le sucre, les boîtes pour le thé d'époque et les tasses et le petit instrument qui permet d'éteindre le réchaud une fois qu'il est trop chaud.
Et logiquement, les visiteurs comme Marion passent un temps fou devant les vitrines.
Magnifique. Les malles à vêtements plus les malles objets par métier aussi, où on voit que chaque métier, que ça soit du cuisinier au pharmacien, il y a un vendeur de bonbons aussi qui avait sa malle, donc c'était une époque, voilà.
Malheureusement, seul un quart de la collection est visible dans l'ancien hall de la Banque de France. Impossible d'exposer tous ces joyaux.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde de cette édition. Attention, demain vendredi, exceptionnellement, Accent d'Europe est diffusé à 16h40 temps universel sur Paris et sur le monde et 19h40 temps universel sur le continent africain.